BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Eh oui, on va parler d'Europe dans ce deuxième des grands débats. L'Europe, selon Nicolas Sarkozy, notre président, était devant les parlementaires européens à Strasbourg, c'était il y a 48 heures. Il n'a pas été applaudi hein, comme il l'avait été quelques jours auparavant à Washington, où il y avait eu une véritable standing ovation de la part du Congrès pour le président français. Bon, il s'est attaqué à pas mal de sujets. Hein. L'Europe politique, l'Europe économique, bien sûr, l'Europe de la défense, discret sur la Turquie, la question de l'identité européenne, le fait que le siège du Parlement européen devra rester à Strasbourg. Et puis voilà, en filigrane, eh ben, il y a bientôt la présidence française de l'Union européenne qui suivra celle de la Slovénie. Ce sera le 1er juillet 2008. Et bien sûr, le traité européen de Lisbonne, un mini-traité, traité simplifié, appelez-le comme vous voulez. Il a été adopté en tout cas le 19 octobre dernier. Marie-Noëlle Lenoir... Marie-Noëlle Lindemann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne PS, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, ancienne ministre du Logement. Vous êtes en duplex en direct avec nous depuis Strasbourg, donc le siège du Parlement européen. Noëlle Lenoir, de Noël pour le prix d'une. Bonjour Noëlle.
Bonjour.
Que les auditeurs de BFM connaissent bien. Avocate chez Debevoise et Plimpton, ancien ministre des Affaires européennes. Et puis Philippe Moreau-Defarge, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes aussi co-directeur du RAMSES. Alors, j'accueille Marjorie Paillon pour ouvrir ce débat. Allons-y Marjorie, donc sur cette question de l'Europe. L'Élysée l'avait annoncé, le discours de Strasbourg devait être l'occasion pour le président de délivrer sa vision de l'Europe et de ses défis, un moment fort, hein, pour redire sa considération et son estime pour le Parlement européen de Strasbourg.
Hein. Et une publicité mensongère pour les députés PS, préférence communautaire, contrepoids politique face à la Banque Centrale Européenne, politique de défense commune, Marie-Noëlle Lindemann dénonce en tête un grand écart entre ce que Nicolas Sarkozy préconise pour l'avenir et l'acceptation du nouveau traité qui dit l'inverse. Pour Henri Weber, l'intervention présidentielle revient à un discours éthéré et abstrait. Le député socialiste aurait préféré que le président français plaide devant le Parlement européen pour un traité social et une charte des services publics.
Alors Marjorie, également au cœur de cette actualité européenne, le traité européen, hein, c'est bien ce qui fait débat. Où en est-on, Marjorie, de l'opposition entre les pro-européens et puis les fameux nonistes, comme on a dit?
Eh bien, un peu de choses près, le traité de Lisbonne réussit à créer les mêmes lignes de fracture que son ancêtre, le traité constitutionnel européen, ce qu'il avait fait d'ailleurs en 2005. Si la majorité présidentielle française fait bloc derrière son leader, eh bien, c'est parce que le traité de Lisbonne est avant tout celui de Nicolas Sarkozy. Et c'est sur cette ligne que le Parti socialiste se déchire. François Hollande voulait que les socialistes marchent vers le oui au traité de Lisbonne et ne s'opposent pas à sa ratification référendaire. Eh bien, c'est raté. Benoît Hamon, le monsieur Europe du PS, a démissionné la semaine dernière avec pertes et fracas. Il ne peut pas, à lui seul, rassembler pro et anti-traité au sein du même parti. Et surtout, le jeune député européen ne veut pas aller contre ses convictions. Le cheval de bataille, pour lui, c'est le référendum, cette fameuse ratification référendaire. C'est aussi le cas pour Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Dupont-Aignan ou bien d'autres. Il se rassemble d'ailleurs le 2 décembre prochain lors d'un meeting pour essayer de faire pencher la balance à 10 jours supposés de la convocation du Congrès par Nicolas Sarkozy. Puisque vous le savez, Nicolas Sarkozy doit convoquer le Parlement en Congrès pour pouvoir ratifier ce fameux traité de Lisbonne. Alors, l'Union européenne est actuellement sous présidence portugaise et doit passer dans les mains de la France de juillet à décembre 2008, une période qui coïncide avec la deadline de la ratification du fameux traité. Le texte doit être ratifié par les 27 pays de l'Union européenne d'ici la fin 2008. Entrée en vigueur du traité de Lisbonne prévu pour le 1er janvier 2009.
Voilà, donc petit rappel des faits, notamment au sujet de ce discours de Nicolas Sarkozy de Strasbourg. Donc je suis avec Noël Lenoir, Marie-Noëlle Lindemann, Philippe Moreau-Defarge. Marie-Noëlle Lindemann, visiblement, grosse déception hein, dans le camp socialiste à Strasbourg lorsque vous avez entendu Nicolas Sarkozy.
C'est-à-dire surtout un peu une certaine consternation, parce que il est vrai que Nicolas Sarkozy a repris les éléments qu'il avait développés dans sa campagne. Mais quand nous connaissons les décisions qu'il a validées, notamment avec le nouveau traité, on voit bien qu'il y a un énorme décalage. Je prends deux exemples. Il avait plaidé pour que la BCE soit mieux contrôlée ou en tout cas qu'il y ait un contrepoids qui permette d'avoir des politiques monétaires plus favorables à la croissance. Le traité reprend stricto sensu le texte constitutionnel qui réaffirme que la seule perspective, c'est l'inflation et que la BCE est totalement indépendante.
Donc ça, c'est le statut, enfin la mission de la BCE inscrite dans le traité de Maastricht.
Non, pas seulement dans le traité, puisque là, il y a une modification qui consolide encore, puisqu'on modifie, là, il y a un amendement qui modifie l'article sur la BCE, qui consolide encore l'importance de la lutte contre l'inflation comme étant première face à toutes les autres politiques. Et puis, il y a la préférence communautaire qui a laissé évidemment pantois la plupart des députés de la conservateur, parce qu'évidemment, le nouveau traité a justement des amendements qui vont contre cela, en imposant que non seulement on fasse tomber les barrières douanières, mais toutes les autres barrières, notamment celles des normes. Et donc, c'est d'ailleurs pourquoi ce côté un peu décalé a fait que les parlementaires européens ne l'ont pas ovationné.
On va faire réagir Gilles Savary, eurodéputé PS, dit Nicolas sacrifié aux délices de la bluff politique. Alors, Noël Lenoir, vous n'acquiesciez pas pendant que Marie-Noëlle Lienemann nous exposait sa réaction après le discours de Nicolas Sarkozy.
Non, je pense que Marie-Noëlle Lienemann, mon amie Marie-Noëlle Lienemann, est dans son rôle d'opposante, mais je pense qu'il y a beaucoup de contre-vérités. Premièrement, le statut de la BCE n'est pas changé, et je crois que c'est souhaitable. Est-ce que les 27 pays qui auraient à décider ensemble de la politique monétaire feraient mieux que la BCE? Je ne crois pas. En tous les cas, à l'heure actuelle, malgré la crise des subprimes, on voit que le marché européen tient plutôt la route. Les banques vont casquer, mais elle tient beaucoup la route, et on salue le rôle de la BCE à cet égard. Et il n'y a aucun changement, absolument aucun changement dans le rôle de la BCE. Simplement, elle fait partie des institutions européennes, ce à quoi d'ailleurs Jean-Claude Trichet, président de la banque, s'était fortement opposé.
Est-ce que je
Tout
peux
ce qui est de la réciprocité, de la préférence communautaire.
Il y a un amendement qui modifie la BCE. Il y a un amendement sur la BCE qui consolide.
Il n'y a pas d'amendement sur la BCE.
Si, si,
on
si,
ne
si.
Change rien au statut
Exactement,
de la BCE.
Exactement. Je peux donner le numéro de l'amendement. C'est l'amendement 87 qui rajoute sur l'inflation.
Qui rajoute quoi sur l'inflation?
Qui c'est déjà dit le que cas, non seulement c'est sa mission principale.
C'était d'accord, sa mission principale, mais il dit la BCE doit s'occuper, doit regarder les autres politiques, mais in fine, c'est la question de l'inflation qui est
alors,
déterminante.
Dans le statut actuel,
ça,
on dit c'est sa mission principale.
Il modifie
Deuxièmement,
le texte, donc on revalide
on va pas...
ça.
Non, mais on n'est pas là au Parlement, et donc on ne va pas ergoter amendement par amendement. Je soutiens
D'accord,
qu'il n'y a aucun
tout.
Changement dans le statut de la BCE, dans la mission principale et la lutte contre l'inflation. Alors, par ailleurs, sur la préférence communautaire, alors Nicolas Sarkozy a parlé de la réciprocité. Alors c'est vrai que la politique commerciale est une politique qui est complètement communautarisée, puisque les États ne peuvent pas négocier ou passer des accords commerciaux in solo. Ça passe par la Commission européenne dans le cadre d'un mandat, mais un mandat qui est collectif. Or, cette réciprocité qui est nouvelle, elle connaît déjà une amorce au niveau communautaire. On ne change pas le traité, mais elle connaît une amorce, puisque on a demandé à M. Poutine d'ouvrir son marché de l'énergie, en contrepartie de quoi les Européens seront d'accord pour continuer à ouvrir le leur. Et d'ailleurs, M. Poutine a protesté, vous vous souvenez de la phrase que je trouve assez humoristique d'Angela Merkel, elle a dit « Mais de quoi vous plaignez-vous? C'est au contraire un honneur pour vous d'être traité, que Gazprom soit traité comme Microsoft. » Donc la réciprocité, elle commence à avoir un début d'application dans ce domaine si clé de la politique énergétique européenne.
Allez, l'arbitrage de Philippe Moreau de Farge entre Noël Lenoir et Marie-Noëlle Lienemann, vous avez évidemment suivi ce discours de Nicolas Sarkozy, vous êtes présent sur les questions européennes, quelle est votre lecture de l'événement?
Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Banque Centrale Européenne et de la préférence, parce que je crois que le problème, c'est comment va se passer la ratification du projet de traité modificatif. Et là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que Nicolas Sarkozy va faire le maximum pour la France, et il semble qu'en ce qui concerne l'aspect français, la question est dominée et le projet de traité sera ratifié, mais il va falloir dans les autres États. Il faut quand même dire que ce texte est très, 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 très compliqué. C'est vrai que quand je vous ai entendu parler de traité simplifié...
On ne sait pas vraiment comment l'appeler, d'ailleurs.
C'est un texte, je dirais traité modificatif ou traité adaptatif. Mais je crois que le véritable débat... Alors, pour revenir au discours de Nicolas Sarkozy, moi, je l'ai trouvé très général. Je l'ai trouvé très, très général. J'ai trouvé sur des principes très généraux, mais il n'est jamais entré sur des terres. D'ailleurs, il y a un point qui est assez amusant. Nicolas Sarkozy a mis beaucoup d'eau dans son vin, et notamment, il y a un point qui est très amusant. Il n'a pas évoqué du tout l'Union méditerranéenne. Il n'en a pas parlé.
Et la Turquie, c'était hors discours officiel.
Si, il a parlé de l'Union Euro-Méditerranée.
Ça n'a pas été souligné, en tout cas.
Ça n'a pas été souligné. Donc, il a été beaucoup plus fort.
Ça a d'ailleurs créé beaucoup de troubles, parce qu'il n'a pas dit Euro-Méditerranée.
Mais c'est vrai qu'on voit bien la ligne qu'il veut. Il veut poursuivre une ligne française, c'est-à-dire une Europe très organisée, une Europe très cohérente. Le problème est que beaucoup de nos partenaires, et notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, ne veulent pas de cette forme d'Europe.
Un mot, Noël Lenoir, avant de marquer une première pause.
Alors moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de débats et que ça va devenir toujours aussi passionné. Pour les ratifications, j'observe qu'il n'y a pas un État qui veut une ratification par référendum, sauf l'Irlande qui est obligée de le faire, regarde sa constitution. Par ailleurs, les élections danoises ont conforté, on reconduit l'actuel Premier ministre. Il devra s'appuyer sur le parti social-démocrate, les socialistes, qui vont voter sans doute le traité. Donc je crois que c'est pas seulement l'Europe française, c'est-à-dire que tous les États membres ont la volonté de sortir l'Europe de la crise. Et c'est une bonne chose.
Il n'y avait que des têtes de chapitre dans le discours de Nicolas Sarkozy, sans contenu. Voilà ce que dit un député socialiste allemand au lendemain de l'intervention à Strasbourg. La suite de ce débat dans un instant.
Un coup de pouce pour les créateurs d'entreprises avec la Société Générale.
Créer son entreprise, ça ne se fait pas tout seul. Alors venez assister gratuitement à nos conférences formations pour développer votre réseau relationnel et vous appuyer sur les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Date et inscription sur sociétégénérale.fr.
Société Générale, on est là pour vous aider.
Pardon monsieur l'agent, vous pouvez me renseigner parce que j'ai deux partitions dans mon PC, un backup de 30 gigas et l'autre HDD qui est la partition système, vous voyez. Et quand je vais dans gestion de disque, il m'indique que j'ai 182 gigas d'espace alloué. Et...
Circuler.
Oui, je vais où?
Simon, chez votre marchand de journaux, il y a micro-hebdo pour 1,80€ seulement. Micro-hebdo, tous les jeudis, simplifiez-vous la vie. Cette semaine dans micro-hebdo, spécial numéro 500. Offrez-vous le maximum des produits high-tech pour un budget de 500€.
BFM, la radio de l'écho.
Le point bourse avec Interexpansion, groupe Ionis, pour la gestion de l'épargne salariale.
Il est 11h15 en direct des marchés financiers. Guillaume Sommeret. Hein.
Le CAC 40 toujours bien en dessous des 5600 points, 5559 points actuellement, moins 1% donc par rapport au cours de clôture d'hier. Les autres places européennes également très mal orientées dans le sillage de Wall Street. Dans l'actualité des entreprises, Bouygues Télécom accélère l'accès Internet depuis ses téléphones mobiles. Il lancera lundi une version plus rapide que ses concurrents d'accès 3G à Internet. Une façon aussi de se positionner à quelques jours du lancement par Orange de l'iPhone d'Apple. Et puis Atos Origin pourrait bien retirer une partie de ses billes de NYSERONEXT. La SS2I et l'opérateur boursier sont en discussion. Et Atos n'exclut pas de céder sa participation de 50% dans leur co-entreprise. Je vous rappelle le CAC, moins 1% et l'euro actuellement à 1,4633$.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM Radio.
11h16, vous retrouvez les grands débats, Nicolas Dose et ses invités.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
L'Europe de Nicolas Sarkozy, l'Europe de 27 États, celle de Nicolas Sarkozy, est-elle souhaitée par les 26 autres? J'en parle avec Noël Lenoir, avocate chez Debevoise et Plimpton, ancienne ministre des Affaires européennes. Marie-Noëlle Lienemann en direct en duplex depuis Strasbourg avec nous, députée PS socialiste, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Philippe Moreau-Defarge, il est chercheur à l'Institut français des relations internationales et puis il est co-directeur du rapport Ramsès, rapport de l'IFRI sur les grandes tendances du monde. Alors, Philippe Moreau-Defarge, on repart avec vous sur cette question de la ratification référendaire. Parlement, quelle est la meilleure solution? Y a-t-il une recette?
Si vous voulez, d'abord, je voudrais faire un point de méthode. On est quand même ici pour débattre et pour discuter. Et disons que dans cette affaire du projet de traité modificatif, il y a quelque chose qui me gêne. Il y avait un grand projet qui était de faire une forme de traité constitutionnel. Ce grand projet a été abandonné pour les raisons que l'on connaît. Et maintenant, on a envie de s'en sortir. Et je pense qu'on est entre deux illusions. Première illusion, que dès lors que les ratifications sont parlementaires, tout sera facile. Peut-être. Mais à nouveau, les parlements, c'est aussi la démocratie. Il n'est pas impossible que les parlements, étant en charge des ratifications, reprennent le pouvoir que l'on a pris au peuple. Ça, c'est un premier point. Deuxième point que je voudrais souligner, il y a une espèce de mythologie qu'on établit, qui est de dire, si ce traité modificatif rate, l'Europe est finie. Non. Si ce traité modificatif rate, l'Europe n'est pas finie.
C'est le traité de Nice qui reste
exactement.
En vigueur.
Exactement. Et le traité de Nice...
De 2000, donc.
N'est pas un bon traité, mais ça fonctionne. Ça fonctionne.
Voilà. Marie-Noël Lindemann, vous voulez réagir?
Je voudrais dire que tout est fait pour nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution que la ratification parlementaire, que c'est joué d'avance en France. C'est inexact. Pour ratifier le traité européen, il faudra une modification constitutionnelle de la Constitution française. Et pour avoir une modification de la Constitution française, il faut une majorité des 3/5 des parlementaires réunis au Congrès.
Bien sûr.
Or, à ce jour, la majorité présidentielle n'a pas les 3/5. Et donc, si l'ensemble des parlementaires de gauche, si l'ensemble des parlementaires qui ont, pendant l'élection présidentielle ou pendant l'élection législative, annoncé aux Français qu'ils se battraient pour qu'il y ait un référendum et qu'en tout cas un nouveau traité devait être ratifié par référendum, tenaient leurs promesses, la ratification, la modification constitutionnelle ne passe pas comme une lettre à la poste. Et elle pourrait être conditionnée par les parlementaires à l'engagement du président de la République de faire un référendum. Et donc, évidemment, tout le monde tait cela, car, comme l'a dit Nicolas Sarkozy devant les présidents de groupe à Strasbourg, si nous faisions voter les peuples, a-t-il dit, les 3/4 d'entre eux voteraient non au nouveau traité. Et donc, dans la même journée, au Parlement européen, il nous dit... il faut écouter les peuples, il faut leur donner la parole. Et il a d'ailleurs expliqué que le non français n'exprimait pas un refus de l'Europe, mais une attente et une exigence d'Europe différente. Et donc là, je trouve qu'il y a, sur cette question référendaire, une question majeure. Quelle image nous faisons-nous de l'avenir de l'Europe ? Une construction qui se fera sans, voire contre les peuples ? Ou est-ce qu'on met les peuples devant leurs responsabilités ?
D'accord.
Et je le dis tout net, si le traité n'avait pris effectivement que la partie 2 et 1 du traité constitutionnel, on pouvait discuter. C'est pas une question d'opposition, il y a des moments.
C'est le cas, Marie-Noël.
Ça n'est pas le cas. À partir de l'amendement 40 jusqu'à l'amendement 260...
Non, mais on peut bluffer, raconter n'importe quoi et avancer des numéros d'articles.
Je m'excuse, Noël, si on nous envoie un document où il y a 270 amendements et qu'il y en a 230 qui correspondent à la restitution exacte du texte constitutionnel dans la partie 3, on ne peut pas nous dire que c'est secondaire.
Vous voulez dire que la partie 3, on les a basculés dans les 1 et 2, c'est ça ?
Non, on a complètement repris le traité. D'ailleurs, Giscard le dit très bien, on a changé les numéros, mais vous retrouvez exactement mot pour mot toute la partie 3 dans le nouveau traité.
Bon.
Il suffit de regarder à partir de l'amendement 40, il y en a 280, donc vous voyez l'immensité de la partie. Et il reste stricto sensu la Constitution. Et donc, vous comprenez que pourquoi ils ne veulent pas de référendum ? Parce qu'ils ne veulent pas que les citoyens français voient la réalité de ce nouveau traité.
Noël Lenoir, vous
pourrez... Bon, moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans le débat référendum par référendum. Moi, je dois dire, pour témoigner, que j'avais fait plusieurs notes au président Chirac à l'époque pour faire valoir le fait que j'étais totalement opposée au référendum. Moi, je suis contre les référendums par principe. D'ailleurs, les Allemands qui sont alertés des risques de ce type de vote n'ont pas le référendum dans la Constitution.
Non, enfin,
et les Britanniques ne l'ont pas non plus. Et les Suisses ont mis des décennies, parce que c'est la démocratie directe, à adopter et à voter pour le vote des femmes. Donc moi, je pense que je suis quand même assez étonnée de voir que ceux qui, en France, prônent le recours au référendum, qu'il s'agisse de Dupont-Aignan, qu'il s'agisse de la gauche, de la gauche socialiste, qu'il s'agisse de Jean-Pierre Chevènement, ont voté non au traité. Je crois qu'il faut être réaliste en politique et il faut sortir de la crise. Par ailleurs, il faut quand même noter une chose extrêmement importante et que Nicolas Sarkozy a souligné, c'est que le principal apport de ce traité, qui est un traité institutionnel, c'est de faire basculer 45 domaines nouveaux dans le domaine de la majorité au lieu du vote par les États à l'unanimité. Il y a l'éducation. Ce n'est pas une compétence très importante de l'Union. Mais quand on voit le succès d'Erasmus, par exemple, on peut penser qu'il y a beaucoup d'avenir. Il y a tout ce qui intéresse l'immigration. La coopération judiciaire, policière. Ça, c'est très, très important. Et le deuxième point, s'il y avait aussi à souligner les points forts de ce traité, c'est quand même le formidable montée en puissance du Parlement européen, Marie-Noël Lindemann. Vous êtes député européen. Et moi, je trouve que dans le sens de la démocratie, c'est très important. et l'initiative citoyenne. Alors, 1 million de citoyens, moi je ne suis pas très favorable à ça.
Attendez,
un million de citoyens qui peuvent imposer à la Commission de mettre sur le tapis une question et même de proposer un texte.
Je veux que Philippe Moreau de Farge réagisse. Philippe Moreau de Farge, est-ce que là on a une constitution qui ne dit pas son nom en fait?
Le projet de traité modificatif n'est pas très différent du projet de traité constitutionnel, c'est clair, et il reprend pour l'essentiel les procédures. Si vous voulez, je crois qu'on peut débattre à l'infini du contenu du traité, et je crois qu'il y a beaucoup d'améliorations.
C'est important si en fait c'est un clone de ce qu'il y avait au préalable. La question est quand même importante.
Mais pourquoi, attendez, on ne pouvait pas changer le projet de traité, puisque les gouvernements, je vous rappelle, en ce qui concerne le projet de traité constitutionnel, les gouvernements ont passé 2 ans à négocier. Il y a même une fois un échec en décembre 2004, en décembre 2003 ou décembre 2004. On a repris le projet de traité. C'est clair que les gouvernements ne vont pas changer complètement d'avis. Ils ont négocié pendant des années pour mettre au point un projet de traité. Ils reprennent, ça n'a rien de choquant. Et disons que ce projet... Non, je crois que ce qui est très difficile et ce qui est un peu dommage, moi je dis ce que je regrette, c'est que, et là je rejoindrai hélas par Ilan Ilman avec lequel je ne suis pas tout en d'accord, c'est qu'il y a un vrai problème de démocratie en Europe. C'est que là aussi, et c'est vrai que les phrases que l'on prête à Nicolas Sarkozy ne sont pas très heureuses, de dire d'un côté, je veux rapprocher l'Europe des peuples, et de l'autre côté, si les peuples s'expriment, il y a un véritable problème. Et je le répète, dans les procédures de ratification, certains parlements vont vouloir prendre la place des peuples. Et il y aura peut-être des difficultés imprévues. Il ne sert à rien de se cacher les yeux devant la réalité.
Alors qu'est-ce que moi je voudrais juste poser, je ne veux pas poser de questions, mais je suis quand même étonnée.
C'est possible.
On ne veut pas, moi je ne serais pas contre, mais on ne veut pas d'un super État européen. Et par ailleurs, on se plaint de ce que ce traité ne ressemble pas du tout à une constitution, est un texte de compromis. Fur et à mesure des compromis qui ont été passés de traité à traité, on a rendu ce traité plus compliqué. Il faut comprendre une idée force dans l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de super-État, il n'y a pas de gouvernement politique européen, parce que les États et les peuples ne veulent pas à ce jour. Ça n'est pas les États-Unis d'Europe, ce serait beaucoup plus simple. Alors, soit on veut les États-Unis d'Europe et on aura une constitution, soit on ne le veut pas. Il faut savoir aussi que, malheureusement, les compétences de l'Union européenne sont prévues dans le détail le plus poussé, le plus sophistiqué, parce que précisément on veut brider les compétences de l'Europe. C'est peut-être regrettable, mais c'est l'état actuel de la construction européenne qui déjà est remarquable compte tenu de notre passé commun, nous, Européens.
Marie-Noëlle Lindemann, Philippe Moreau de Farge, vous réagissez d'ici quelques minutes à ce que disait à l'instant Noël Lenoir.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Tous les jeudis à 23h sur BFM Radio, vous avez rendez-vous avec la rédaction de 01 Informatique, Frédéric Simotel.
Ce soir, je reçois Christophe Davy, il est directeur des systèmes d'information de Beauté Prestige International. Nous parlerons ensemble d'innovation et de décisionnel. Avec Christian Poyot, directeur général de Micropole Univers, nous ferons le point sur l'état de santé des SS2I en France.
01 Business, chaque jeudi à 23h sur BFM. BFM, la radio de l'écho.
Non mais tu te rends compte, en rentrant, j'ai pris l'autoroute, il devait y avoir un radar parce que tout le monde a ralenti d'un seul coup sans raison particulière. Non mais c'est dangereux de freiner comme ça. J'ai failli emboutir la voiture de devant. Alors la prochaine fois, j'appellerai le 0899 70 22 12 pour savoir où sont les radars fixes et mobiles. Parce que même si je ne fais pas d'excès de vitesse, j'ai pas envie d'être surprise moi.
0899 70 22 12, lâche info, 1,35€ l'appel, 34 centimes la minute. Ce numéro n'a pas pour objet l'incitation à la vitesse.
Argent comptant, le samedi à 11h et le dimanche à 19h sur BFM, David Jacquot.
Et ce week-end dans Argent comptant sur BFM, nous vous dirons quels sont les meilleurs crédits auto du moment, si d'aventure vous songiez à acheter une nouvelle voiture. Et puis nous testerons également les nouvelles enseignes de service à la personne dont l'ambition est de vous permettre de résoudre d'un simple coup de fil vos problèmes d'aide à domicile, que ce soit en matière de garde d'enfants, de ménage ou de petits travaux. Alors quelles sont les meilleures plateformes? Réponse dans notre banc d'essai.
Argent comptant sur BFM, l'argent sous toutes ses coupures. BFM, la radio de l'écho.
Il est 11h26 en direct des marchés financiers avec Guillaume Sommerer.
Et la chute s'accélère, moins 1,3% désormais pour le CAC 40, 5541 points. Les autres places européennes également en nette baisse. Tout cela est la conséquence du repli de Wall Street et Tokyo. Des prises de bénéfices à Paris dues également au bon hier de près d'un 0,5%. À suivre aujourd'hui parmi les indicateurs, eh bien l'indice des prix aux États-Unis pour octobre après une bonne surprise hier du côté des prix à la production. Les investisseurs regarderont aussi l'indice de la Fed de Philadelphie et comme chaque semaine, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté valeur, Crédit Agricole plombe cette séance, moins 4% actuellement, 23,60€. Pour KBW, ses résultats trimestriels révèlent un impact plus fort que prévu de la crise du subprime. Calion, la filiale banque de financement et d'investissement, a particulièrement sous-performé. Sa mauvaise passe s'explique en grande part le recul des résultats de Crédit Agricole au troisième trimestre. Sodexo également en chute libre sur le SRD, moins 8,5% à 43,90€. Le groupe de restauration collective déçoit lui aussi un bénéfice légèrement en dessous des attentes pour 2006-2007 à 347 millions d'euros. Les coûts d'exploitation semblent-ils augmenter. Et puis Atos Origine, la SS2I perd 4,4%. Elle a annoncé un chiffre d'affaires troisième trimestre en hausse de 11% à quasiment 1,5 milliard d'euros. Parmi les valeurs en forme, contre la tendance, L'Oréal, les marchés saluent le retrait partiel du capital de Sanofi Aventis. L'Oréal abandonne 1,8% pour du capital pour 1,5 milliard d'euros et le titre en bourse gagne 1,2%, 90,60€. Bouygues réagit bien, lui, au chiffre d'affaires 9 mois publié hier. Il ressort en hausse de plus de 11%, tiré notamment par l'activité à l'international. Bouygues en progression à la Bourse de Paris de 0,3%, 61,10€. Le CAC perd donc 1,2% actuellement et l'euro vaut 1,4627$.
Indice, cours, change, cotation en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM Radio. 34 centimes la minute.
Il est pratiquement 11h30, l'essentiel de l'information, Grégoire Favet.
Peut-être une troisième journée noire en perspective dans les transports. Force ouvrière annonce que plusieurs assemblées générales de cheminots ont reconduit ce matin le mouvement pour 24 heures. Détail dans le journal de l'économie à suivre dans un instant. L'agitation dans les universités se poursuit. Une cinquantaine de grévistes a été délogée par la police du campus de Rennes 2 la nuit dernière. 36 facultés sur 85 restent entièrement ou partiellement bloquées aujourd'hui. Une réunion est prévue entre Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur, les organisations étudiantes et les présidents d'universités. Mitraillage et tentative d'attentat en Corse. Des inconnus ont tiré sur le tribunal d'Ajaccio hier soir, à un jour de la visite du garde des Sceaux, Rachida Dati. Une charge explosive a par ailleurs été retrouvée et maîtrisée à proximité d'une maison de particulier dans le sud de l'île. Deux sapeurs-pompiers légèrement blessés la nuit dernière dans le Var. Ils luttaient contre un incendie qui a ravagé 240 hectares de forêt près de Sainte-Maxime. Incendie qui a été fixé ce matin. Et puis le puissant séisme survenu hier dans le nord du Chili a fait au moins 2 morts selon un dernier bilan. On compte également une centaine de blessés, 4000 sinistrés, plus d'un millier de maisons détruites. L'opposition pakistanaise tente une union. Les deux anciens premiers ministres, Benazir Bhutto et Nawaz Sharif, sont prêts à enterrer leurs différends pour s'allier contre l'actuel président Musharraf. Benazir Bhutto toujours assigné à résidence aujourd'hui et ce pour le troisième jour d'affilée.
BFM, il est 11h30. On passe à l'économie, Grégoire.
Et c'est sans doute une nouvelle journée de grève qui se profile demain. Selon Force ouvrière, plusieurs assemblées générales ont décidé ce matin de reconduire le mouvement pour 24 heures, comme par exemple à Marseille, à Bordeaux ou encore à Paris Nord. Dans sa lettre de méthode envoyée hier au syndicat, Xavier Bertrand, ministre du Travail, donne un mois aux organisations de salariés et aux entreprises pour négocier la réforme des régimes spéciaux de retraite en présence de représentants de l'État. Didier Loreste, leader de la CGT, cheminots estime ce matin que ces propositions contiennent des éléments nouveaux, mais qu'il revient aux salariés de décider de la suite du mouvement. Une intersyndicale est prévue cet après-midi. En attendant, les perturbations restent fortes dans les transports, avec toutefois quelques améliorations par rapport à la journée d'hier à la SNCF. 150 TGV sur 700 circulent normalement, une cinquantaine de corail pour les grandes lignes, en moyenne un TER sur 3 en région. Le trafic est normal pour l'Eurostar et le Thalys, et puis à la RATP, on compte en moyenne un métro sur 3 ou sur 4, 30% de bus et de tramway. Le trafic est quasi nul sur le RER A, il est nul sur la ligne B du RER. En Allemagne, la grève du rail prend également de l'ampleur. Le syndicat des conducteurs de la Deutsche Bahn étend son mouvement, entamé dans le fret, au transport passager. Aujourd'hui, l'est du pays est particulièrement touché, avec des répercussions importantes pour l'économie allemande, Mathieu Sévin.
50 millions d'euros par jour, c'est le coût pour l'économie allemande d'une paralysie du fret. Les industriels allemands sont très dépendants du transport par rail. Si les industries pétrolières, chimiques ou encore agroalimentaires ne seront pas épargnées, le secteur automobile, lui, devrait être le plus touché par cette grogne des cheminots. Un tiers de l'acier est acheminé dans les usines par train. Les groupes Volkswagen, Daimler ou encore BMW utilisent aussi massivement la DB pour acheminer aux quatre coins de l'Europe leur production. Du coup, coup, si le mouvement s'enlise, les constructeurs vont devoir se réorganiser, mais il semble très difficile pour eux de combler une absence prolongée du transport de marchandises par rail. Au final, ce conflit pourrait entraîner la mise au chômage technique de nombreux ouvriers outre-Rhin.
La bataille de la bière continue. Les brasseurs Carlsberg et Heineken ont relevé leur offre commune sur le britannique Scottish & Newcastle. Aujourd'hui, offre qui valorise désormais le groupe à près de 10,5 milliards d'euros. Barclay rassure, bien loin des rumeurs qui avaient fait plonger le titre la semaine dernière, la banque britannique annonce finalement 1,9 milliard d'euros de dépréciation d'actifs depuis le mois de juillet. La rumeur faisait part d'une somme de 10 milliards d'euros, conséquence évidemment de la crise des subprimes. Et puis toujours à ce chapitre, Crédit Agricole déçoit. La banque a dû passer près de 550 millions d'euros de nouvelles dépréciations au troisième trimestre. Sur cette période, Crédit Agricole enregistre un bénéfice net en repli de presque 17%, à peu près conforme toutefois aux attentes du marché. Vous êtes sur BFM, c'est la fin de ce journal de l'économie. Il est 11h33.
Un journal de l'économie toutes les demi-heures, uniquement sur BFM.
Les grands débats continuent. Tout de suite, vous retrouvez Nicolas Dose et ses invités.
BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
L'Europe de demain à la une de ce débat, notamment celle de Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé il y a 48 heures devant les eurodéputés à Strasbourg, sachant que la France aura la présidence de l'Union européenne d'ici maintenant 8 mois. Et bien sûr, derrière, il y a la question du traité européen de Lisbonne qui a été adopté le 19 octobre. Il y a un haut fonctionnaire européen qui dit le chimpanzé et l'homme partagent 99% de leur capital génétique et pourtant le chimpanzé n'est pas l'homme, dit-il, en comparant bien sûr l'ancienne constitution qui a été rejetée par les Français à ce nouveau mini-traité, traité simplifié, toutes les appellations existent. On en parle avec Noël Lenoir, avocate chez Debevoise et Plimpton, ancienne ministre des Affaires européennes, Marie-Noëlle Lienemann qui est en direct en duplex depuis Strasbourg avec nous, qui est eurodéputée socialiste, et puis Philippe Moreau-Defarge, chercheur à l'Institut français des relations internationales et co-directeur du guide annuel Ramsès de l'IFRI. Alors Philippe Moreau-Defarge, juste avant la pause, on parlait avec Noël, avec Marie-Noëlle Lienemann et Noël Lenoir de ce débat entre fédéralistes souverainistes et vous vouliez réagir. J'ai malheureusement, je vous en ai empêché car le temps manquait, mais là on peut y aller.
Non, je voudrais faire deux remarques. D'abord, Noël Lenoir a évoqué qu'on ne voulait pas faire un super État, qu'il n'y avait pas un gouvernement politique de l'Europe. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle parce que justement l'une des avancées majeures du projet de traité dont on ne parle jamais, c'est l'Union européenne aura la personnalité juridique. Ça veut dire que l'Union européenne sera désormais une personne juridique unique. C'est vraiment un saut majeur et quasi fédéral.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire que désormais toutes les activités de l'Union européenne seront dans un cadre juridique unique. Et ça veut dire que notamment qu'il s'agisse de la politique étrangère, des affaires de justice et de police, on pourra avoir des transferts de compétences des États vers l'Union européenne. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, je voudrais dire une chose sur cette affaire du projet de traité modificateur. Je crois que nous payons en ce moment des années ou des décennies d'erreurs. Et je voudrais évoquer par exemple le cas de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est pro-européen. Il a un discours extrêmement pro-européen. Il est très enthousiaste pour l'Europe. On ne peut pas être à la fois pro-européen et en même temps dire que l'Europe est responsable de tous nos problèmes, que la Banque Centrale Européenne nous impose une politique trop dure, qu'en matière de concurrence, les règles sont trop ultra-libérales. Il y a un problème. Et à nouveau, l'Union européenne ne peut tenir que si l'on bâtit une démocratie européenne. On n'échappera pas à cette question. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, le projet de traité modificatif contourne cette question. Il y a un vrai problème et on n'échappera pas à ce problème. Voilà.
Marie-Noëlle Lienemann, si vous voulez réagir à cette question-là, l'Europe politique, une fois de plus.
Oui, moi, je pense qu'effectivement, on a d'abord le préalable démocratique, qui est quelque chose de tout à fait essentiel. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sorte de faiblesse des politiques européennes. Et pour une raison simple.
Il n'y en a pas d'ailleurs.
Voilà, enfin la politique agricole commune.
Oui, la politique, d'accord, voilà. D'accord.
Mais elle n'est pas neutre, elle n'est pas neutre dans les temps qui courent. Néanmoins, pourquoi il n'y en a pas? Parce que de la même manière qu'il n'y a pas de politique industrielle, à partir du moment où le fondement même de l'Europe est une forme d'ultra-libéralisme, non pas de l'économie de marché que personne ne nie, mais d'espèce de dogme de la concurrence, on n'a pas du tout cherché à développer des stratégies complémentaires fortes d'investissement public avec un budget européen important et même des sujets comme Galiléo qui auraient dû être des sujets de grande mobilisation.
C'est les GPS européens.
Oui, voilà. Un peu euphorique d'avoir quand même des progrès technologiques nouveaux. On chipote, on n'arrive pas, bon an, mal an, au dernier moment, on essaie de trouver des raccords financiers, mais du coup, on prend du retard. Autant je plaide qu'il y ait ce référendum sur le traité, autant je pense que la présidence française qui doit aussi porter des nouvelles politiques communes. Alors, on parle beaucoup de celle de l'énergie, mais la même chose. Si c'est pour nous expliquer qu'il faut augmenter encore la concurrence, quel discours de la... qui est aujourd'hui le discours de la Commission sur l'ensemble du système et de l'énergie, alors même que cette concurrence n'a nulle part à faire totalement preuve de son efficacité, on voit bien les limites de cet exercice.
D'accord. Ils ne sont pas d'accord dans le studio Noël Lenoir, donc Marie-Noël Lindemann, décidément je m'y perds. Noël Lenoir, allez-y.
Moi je pense au contraire que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse des institutions. Évidemment, moi je suis pour une démocratie européenne. Je pense qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je pense qu'elle pêche à l'ère des médias par une trop grande complexité. Mais il y a une foule de politiques. Alors ça aussi, je pense, Philippe Moreau de Farge a raison de dire que les États ne revendiquent pas assez ce qu'ils font et les décisions qu'ils prennent à Bruxelles, chez eux, parce que, par exemple, en matière sociale, tout ce qui intéresse la protection du travailleur dans son milieu de travail, contre la pollution, etc., c'est des textes européens. L'égalité homme-femme, les lois de 82, Yvette Roudy, ici, à l'antenne de BFM, l'a reconnu, c'est-à-dire que les directives européennes ont obligé la France à donner accès aux femmes à peu près toutes les professions, d'ailleurs toutes les professions. La politique de l'environnement, il y a Kyoto, il y a Natura 2000, bon c'est parfois contesté, mais c'est une politique phare. La politique de protection des consommateurs, le crédit consommateur, ce qui vient d'être fait aussi en matière de télécom, Madame Reding, pour permettre que les communications téléphoniques transfrontalières sur mobile ne soient pas plus chères, pratiquement pas plus cher que les communications au plan national. Ce qui a été fait, ce qui va être fait au niveau financier pour que les transferts financiers par les citoyens, par les individus d'un État à l'autre ne leur coûtent pas les sommes faramineuses que ça coûte aujourd'hui.
Ça, sont des
la politique de lutte contre le terrorisme. Enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique européenne. Tous les jours, il y a des mesures de politique européenne. Tous les jours, il y a des textes qui sont votés par le Parlement européen. On ne peut pas laisser dire ça.
Mais il y en a des positifs, mais ça ne constitue pas des grandes politiques.
Premièrement, je rejoins totalement la loi. Premièrement, il y a énormément de politiques communes et même la politique de la concurrence est une politique qui défend l'Europe. Quand la politique de la concurrence s'oppose à Microsoft, elle défend l'Europe. Oui, ça, c'est un premier point. Deuxième point, je suis désolé, Madame Lindemann, mais la vision des socialistes sur les stratégies est complètement dépassée. Elle est complètement dépassée. Le monde n'est plus dominé par l'Occident, le monde n'est plus dominé par l'Europe, le monde est de plus en plus dominé par les États du Sud. C'est avec eux qu'il faut négocier. Exactement. Et ces grandes stratégies de protectionnisme ne marcheront pas.
Alors, Marie-Noëlle Lindemann, allez-y.
Vous m'avez entendu parler de stratégie de protectionnisme. J'ai parlé de grands projets technologiques. J'ai parlé de grands investissements publics pour moderniser l'ensemble.
Les États n'ont plus d'argent. Ils sont fauchés.
Bien sûr. S'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien d'autre à faire. C'est pas la peine de faire de l'Europe politique. Ils n'ont pas d'argent. L'Europe n'a pas d'argent parce qu'elle n'a pas voulu, et c'est d'ailleurs une des faiblesses du traité, donner des engagements budgétaires qui fassent qu'il y ait des ressources propres à l'Union européenne, qui soient de nature à lui permettre de pouvoir engager, au-delà des négociations avec les 27 États, les moyens de grandes politiques structurantes, qu'il ne s'agit absolument pas de totalement mettre du protectionnisme. Il s'agit de se doter d'outils de modernisation et de politique nouvelle. Alors oui, c'est vrai, l'Europe décide tous les jours des choses positives. Moi, je suis chargée de l'environnement et c'est vrai que sans l'Union européenne, la France serait encore bien en retard. Et j'ai bien rigolé au Grenelle d'entendre le président de la République nous donner des engagements qui sont purement et simplement l'application des directives communautaires. Reste que, pour autant, ça ne constitue pas des politiques visibles, structurantes, qui donnent du contenu au projet européen. Je ne nie évidemment, contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne suis pas du tout une nationaliste, je suis une fédéraliste historiquement. Je constate que l'écart entre l'aspiration des peuples et ce que fait l'Europe, ça croît, et que ce qu'elle fait de bien passe sous le boisseau, pas simplement parce qu'on ne l'explique pas, parce que des problèmes majeurs heurtent la vision positive qu'on pourrait donner de l'Europe.
Alors justement, est-ce que cette présidence stable, c'est pas cette gouvernance politique de l'Europe que vous appelez de vos voeux ? Cette présidence stable prévue dans le traité qui prévoit un président élu pour 2 ans et demi, renouvelable une fois.
Non, mais il y a un problème avec la présidence stable. Bon, c'est très bien. Bravo, Philippe, on aura un président indépendant pendant 2 ans et demi. Moi, je voudrais faire deux remarques.
C'est de la poudre aux yeux, Philippe.
Attendez.
Ça ne change rien par rapport à la présidence
tendance.
Non, ce n'est
pas de la poudre aux yeux. Mais je crois qu'il y a deux remarques qu'il faut faire. Premièrement, il y a un autre président de l'Europe. Il n'y aura pas un président, mais on en aura deux. Il y aura le président de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Première remarque. Deuxième remarque, ce président du Conseil européen, il va falloir qu'il soit très malin pour exister face aux chefs d'État et de gouvernement. Moi, je veux, quand je connais M. Sarkozy ou M. Gordon Brown, il va falloir beaucoup de diplomatie au président du Conseil européen pour apparaître comme celui qui est au-dessus des autres, parce qu'il sera au-dessus des autres.
Marie-Noël, Noël Lenoir, cette présidence, ce nouveau président élu pour 2 ans et demi, comment ça peut fonctionner ?
Je pense que l'État, certes, les peuples, c'est important, mais si les États, si les dirigeants politiques qui ont été mandatés par leur peuple pour conduire une certaine politique n'adhèrent pas à l'Europe, ça ne marchera pas. Et moi, je trouve qu'il y a quand même dans ce traité, j'étais au début très, très réticente face à ce que vient d'indiquer Philippe Moreau de Farge, c'est-à-dire ce président du Conseil européen stable qui n'aura peut-être pas les mains, effectivement, une marge d'initiative considérable vis-à-vis des États.
Parce qu'on aura toujours le président de la Commission européenne. Qui est l'exécutif européen.
Vous aurez un triumvirat en réalité. Vous allez avoir le haut représentant qui ne s'appelle plus ministre des Affaires étrangères, oui, qui aura quand même ses révolutionnaires, à mon sens, et très important dans un monde de plus en plus multipolaire, un service diplomatique de 400 personnes, ce qui va être absolument considérable, et qui pourra venir devant le groupe des pays européens à l'ONU pour discuter et essayer à former une position commune au niveau de l'ONU, qu'ensuite les deux États membres du Conseil de sécurité, que sont la Grande-Bretagne d'une part et la France d'autre part, devront suivre. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. Vous aurez le président du Conseil européen qui, évidemment, devra faire sa place, je suis d'accord. Et puis, il ne sera pas seul, parce que les conseils des ministres continueront d'être présidés par les États de manière tournante tous les 6 mois. Et puis, vous aurez le troisième homme, ou femme, parce qu'il faudra bien venir aux femmes un jour ou l'autre. Il y en a eu au Parlement, il n'y en a pas encore eu à la Commission. Il y a le président de la Commission, qui est très important, parce que moi, je suis une partisane acharnée de la méthode communautaire. Or, elle s'efface un petit peu. Cette méthode communautaire, ça veut dire que la Commission joue un peu son rôle de plateforme, aide les États à coucher de textes raisonnables avec ce monopole d'initiative législative qui est très important. Je pense que c'est des structures plus politiques, ça va dans le bon sens, c'est pas parfait, mais je suis pas pour la politique du pire.
Voilà, on marque une dernière pause et on se retrouve pour clore ce débat sur l'Europe de demain. Restez avec nous.
BFM TV, tout voir, tout savoir en direct, 20h, Olivier Mazerolle.
Alors le président va retrouver maintenant la chancelière.
Oui Olivier, la voiture du président vient tout juste d'arriver.
Alors c'est une réunion cruciale qui se déroule en ce moment sur l'avenir du parti.
Écoutez Olivier, on a assisté à des mises au point très vives tout à l'heure.
BFM TV, la chaîne d'infos entièrement gratuite, disponible sur la TNT, le câble, le satellite et la DSL.
On est à quelques instants du sprint final. Où en est-on, Eddy Pizzardini ?
Il y a des surprises Olivier, le classement est bouleversé, plusieurs favoris sont distancés.
BFM TV, priorité au direct.
Facture, chèque, loyers impayés. Dites halt aux mauvais payeurs. Pour récupérer votre argent, ayez le réflexe sefairepayer.com. Rapide, simple et efficace, sefairepayer.com, le spécialiste du recouvrement de créances sur Internet.
BFM, la radio de l'écho.
En direct des marchés financiers, Guillaume Sommerer, il est midi moins le quart.
-1,1%, le CAC 40, 5552 points. Les autres places européennes restent également dans le rouge. Le FTSE à Londres perd 0,7. Le DAX à Francfort, 0,9. Alors la plus forte baisse du CAC, c'est Crédit Agricole, -3,5% à 23,70€. Lanterne rouge du SRD, Sodexo Alliance, -9,3%. À 43,70€, le titre Châtier, après les résultats annuels décevants, un bénéfice en hausse de seulement 7,5%. Parmi les explications, Deutsche Bank déplore la hausse des coûts d'exploitation. Également en repli actuellement de Richebourg, -4,6%, 6,20€. Nexans perd également 3,9 à 97,80€. Là, les marchés sanctionnent la plus grande acquisition de l'histoire du groupe. Nexans va en effet racheter la totalité des activités de câblage du chilien Madeco. L'opération valorisera Madeco 560 millions d'euros. Parmi les valeurs en hausse contre la tendance, Clarins +4,2%, 59,70€, et sur le CAC 40, 6 valeurs dans le vert, notamment Vallourec +2,1% à 194,80€. Le CAC 40 perd donc 1,1%, 5 550 points.
Un point bourse tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
11h46, vous retrouvez tout de suite le dernier quart d'heure des grands débats.
Les grands débats, Nicolas Dose sur BFM.
Je suis toujours avec Noël Lenoir, Marie-Noël Lindemann et Philippe Moreau de Farge. Marie-Noël Lindemann, je vous pose la question que je posais à Philippe Moreau de Farge tout à l'heure. Est-ce que ce... Bon, vous avez un peu répondu, mais pour que les choses soient bien claires, est-ce que ce futur traité, c'est une constitution qui ne dit pas son nom, selon vous ?
Non, elle n'a pas la valeur symbolique de la Constitution, d'accord, mais elle a la même valeur juridique. C'est le texte de la Constitution à quelques bémols près qui sont la suppression des mots et la suppression des hymnes. D'ailleurs, ce que je regrette, les hymnes, le drapeau, les symboles de l'Union.
Voilà, les symboles, effectivement.
Mais tout le reste, c'est copie conforme, sauf qu'effectivement, la charge symbolique est différente. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est que le monde est en train de changer. Il change profondément et notre interlocuteur Philippe Moreau de Farge, l'a justement indiqué. Et il faut avoir sur cet regard de l'évolution du monde une réponse européenne qui ne peut pas être on continue comme avant avec les mêmes outils, la même dynamique et les mêmes idéologies. Je suis très frappée de voir la montée des fonds souverains et des hedge funds.
Alors on a parlé beaucoup des fonds souverains, notamment celui de la Chine qui vient de voir le jour, doté de 200 milliards de dollars.
Et donc on a de nouveau sur le champ économique la réintroduction d'outils publics ou d'outils nationaux qui ne vont pas faire de l'économie abstraite, qui vont utiliser leurs ressources dans un cadre géopolitique nouveau.
Et alors, il y a des réponses selon vous, là ou
alors,
pas ?
Alors justement, on aurait pu espérer que, par exemple, l'Europe travaille maintenant très vite à des stratégies qui ne soient pas que défensives, Angela Merkel, d'ailleurs, a été une des premières à tirer la sonnette d'alarme.
Oui, ils ont mis des protections, effectivement, sur les capitaux des
entreprises
sensibles.
Avec des golden shares, etc. Ouais. Enfin, des réponses défensives.
Des actions spécifiques.
On peut s'interroger pour savoir s'il ne serait pas intéressant d'inventer des formes européennes. Alors, je pas forcément sous la forme chinoise ou russe. Par exemple, de ces hedge funds ou en tout cas de ces fonds souverains pour qu'on retrouve un peu plus de maîtrise dans le capital, soit de nos entreprises, soit dans certains secteurs qui nous sont chers.
Voilà, Noël Lenoir, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui notre Europe est en train de s'adapter au monde qui change très vite ? Voilà, c'est ça la question.
Enfin bon, tout ça, c'est des banalités. Le monde change, le monde est en mutation.
Écoutez, PetroChina, première valeur du monde, et Chine, troisième puissance économique du monde, c'est quand même assez nouveau, ça.
Non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est simplement qu'en l'état du traité même de Nice, il y a des outils au titre de la politique financière qui sont en train d'ailleurs non seulement d'être utilisés, par exemple les golden shares, il faut savoir que la Cour de justice...
Alors ce sont des actions spécifiques qui permettent de bloquer des décisions stratégiques dans une entreprise lorsqu'on détient cette golden share.
Hein. Alors il faut... Bon, j'en ai parlé ici à cette antenne. La golden share, ça veut dire par exemple un État qui détient 20% d'une entreprise stratégique dans le domaine énergétique et pas seulement
Volkswagen,
de la défense.
Notamment récemment.
Non. Et alors, la Cour de justice a validé ces actions de blocage, parce qu'avec 20%, en réalité, vous contrôlez l'entreprise, vous pouvez faire obstacle à une offre publique d'achat, par exemple, à une OPA, mais la Cour de justice a dit ça ne peut pas être utilisé pour tout et n'importe quoi, ça n'est pas valable pour Volkswagen.
Voilà,
c'est ce
ça
qu'elle
vient
de décider.
Ça vient d'être annulé
parce que ça, c'est une entreprise automobile. Pourquoi Porsche, qui détient 31% des actions de Volkswagen, ne pourrait pas prendre le contrôle ? C'est ce qui vient d'être fait, alors que c'était bloqué du fait de la Golden Share du Land de Basse-Saxe de M. Schröder et de l'État fédéral allemand, alors que la Cour de justice en 2002, en 2003 a dit mais c'est tout à fait possible d'envisager des golden shares dans le cadre d'entreprises stratégiques en dehors de la défense nationale et notamment l'énergie, ça a été décidé pour des entreprises belges. Alors ça, les réflexions sur les fonds souverains...
Pourquoi c'est la Cour de justice qui arbitre des choses aussi politiques?
Eh bien parce que c'est un état de droit, c'est la
rouleau. Parce qu'on est dans un système fédéral.
Aujourd'hui, le Conseil...
Comme la cour de justice, comme c'est l'équivalent de la Cour
suprême. S'il n'y avait pas la Cour de justice...
Je le dis bien, pourquoi? Parce que le traité ou les textes... Je n'ai pas de... Je considère que la question de traité n'est pas unique.
Non mais Marie-Noël, si on supprime la Cour de justice, il n'y a qu'à supprimer l'Europe. La Cour de justice est une juridiction qui a été créée par le traité de Rome. Et d'ailleurs, elle existait même avant le traité de Rome.
Mais bon, je suis pour la Cour de justice.
Et c'est bien, elle a décidé d'une
façon
tout à fait convenable.
Je ne suis pas pour que les textes européens soient des telles passoires, que ce soit la Cour de justice
qui soit amenée... Ce n'est pas les textes européens, c'est le traité.
Mais indépendamment du traité, justement, vous me dites que ça ne compte pas les textes du traité.
Alors moi, ce que je voudrais, bon, on va peut-être passer. Alors, il y a un deuxième point, moi, qui me paraît tout à fait intéressant.
Il nous reste deux minutes, Noël Ledouard, hein.
Moi, ce que je veux dire, donc, quand même, c'est qu'il ne faut pas désespérer Billancourt. Il ne faut pas sans arrêt alerter tout le monde en disant que c'est monstrueux, etc. Ce traité, c'est une boîte à outils. Il n'a jamais été une constitution. Il s'appelait constitution parce que c'est quand même important. Il y a la déclaration, il y a la charte des droits des citoyens qui va être très important. Et j'indique quand même que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il y a les droits sociaux. Il y a le droit syndical, il y a le droit de grève, il y a le droit à la sécurité sociale. C'est la première fois qu'on intègre dans un traité européen les droits sociaux des citoyens, même si ça n'est pas inclus en tant que tel, mais c'est une référence et ça a une valeur juridique obligatoire. C'est absolument révolutionnaire. Et je peux vous dire que les milieux économiques ne sont pas du tout favorables. Sur le reste, moi, je crois que ça avance. Et comme disait M. Verhofstadt, le Premier ministre qui avait été interrogé ici même sur BFM, c'est comme une bicyclette. Si elle n'avance pas, on tombe.
Philippe Moreau de Farge.
Non, je voudrais revenir sur les remarques de Marie-Hélène Image. Je trouve son point de vue extrêmement sympathique. Mais simplement, par exemple, elle dit qu'il faut que les États fassent des fonds souverains, les États européens.
Je n'ai pas dit les États, j'ai dit l'Europe.
L'Europe, oui. N'oubliez pas qu'au sein même de l'Europe, il y a un débat extrêmement dur sur la vision de ce que doit être l'organisation économique de l'Europe. Et de ce point de vue-là, la position française, et je suis désolé de le dire, la position des socialistes français est extrêmement minoritaire, sinon considérée comme complètement dépassée. Alors, il faut quand même qu'on adapte notre discours. Je dirais, à nos partenaires.
Allez, un mot pour terminer, Marine. Il nous reste 30 secondes, allez-y. Marine Oleman, si vous voulez conclure, il nous reste 30 secondes.
Oui, moi, je voudrais dire que notre vision n'a rien de dépassé, car je vois justement tous mes partis sociaux-démocrates qui étaient en train de nous mettre au pilori, qui sont en train de venir sur nos stratégies, notamment les stratégies que j'ai indiquées sur la nécessité de redonner des outils publics qui ne sont pas les seuls intervenants, mais des intervenants dans une économie de marché, ou à considérer que l'augmentation des salaires est un des éléments déterminants de la relance de la croissance européenne. Donc, je pense au contraire que ce qui se passe en Amérique latine et les évolutions des démocrates américains sont de nature à nous montrer qu'il y a beaucoup d'actualités dans non seulement ce que disent les Français, mais il faut bien les socialistes français, mais bien ce que disent d'une manière générale les républicains français.
Merci Marie-Noëlle Lindemann, députée PS européen, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais. Noël Lenoir, merci d'avoir été avec nous, avocate chez Debevoise et Plimpton. Philippe Moreau de Farge, bonne journée. Merci d'avoir été là également, chercheur à l'Institut français des relations internationales.